On a beaucoup de chance avec Germain parce qu'il s'agit du seul saint jurassien dont on dispose vraiment d'une source historique fiable, c'est-à-dire le récit de sa passion, donc de sa vie et de sa mort, par le moine Bobolaine à la fin du 7e siècle. Elle nous apprend que Germain est un homme tout à fait extraordinaire dès son enfance, donc on voit dès le prologue de la passion que Germain, en fait, il est formaté pour devenir un saint. Il est originaire d'une très grande famille de la noblesse de la ville de Trèves, très proche de la royauté mérovingienne. Son père et son grand frère sont des proches du roi Dagobert, celui de la chanson, et de son successeur Sigebert. Donc il a à la fois les mérites de la naissance, et puis en plus il va avoir une formation d'élite auprès d'un certain nombre de très grands personnages de l'Église de l'époque, qui seront d'ailleurs tous des saints. Et au fil de sa formation, on voit qu'il n'arrête pas de s'améliorer en vertu, en qualité, en grandeur, etc. Et c'est donc tout naturellement que l'abbé de Luxeuil lui confie la gestion du couvent de Moutier-Grandval, où on ne sait pas grand-chose sur ses activités. Germain en est donc le premier abbé, on ne sait pas très bien ce qu'il fait à part construire une route à travers les gorges, car très vite, il va être la victime d'une opération de police, en quelque sorte, de duc d'Alsace et Ticot dans le Sornogo, c'est-à-dire la région de la vallée de Delémont actuelle. Et là, il va subir le martyre, c'est-à-dire qu'il va se faire massacrer avec son compagnon Randoald par les soldats d'Ético, et du coup, immédiatement, les moines de Moutier vont l'honorer comme un saint, ce que Dieu va confirmer avec deux miracles survenus à sa mort et peu après.
Ce personnage qui devient un saint, son squelette aura aussi une histoire assez particulière. Dans la conférence que vous avez donnée, vous parlez en titre d'un squelette baladeur. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors on peut dégager cette période de mouvement ou de stabilité chez Germain. Mais grosso modo, dans la première période qui va de la fin du 7e siècle, date de sa mort, jusqu'au 11e siècle environ, on ne sait pas très bien où il est. On sait que les moines l'enterre immédiatement dans la première église du couvent, l'église Saint-Pierre, vers l'autel. Mais après, on ne sait pas très bien ce qui se passe jusqu'au 11e siècle, c'est-à-dire le moment où la collégiale, à l'emplacement qu'on lui connaît, est bâtie à Moutier, parce que l'église initiale se trouve ailleurs, plus vers le centre du village. À ce moment-là, ouvre la deuxième période, c'est-à-dire que Germain est enterré vers le maître-autel de la collégiale au site actuel. Et ça, ça dure paisiblement jusqu'à la fin du 15e siècle. Et là, il y a une période extrêmement agitée entre 1477 et 1534. En 1477, les chanoines vont ouvrir le tombeau de Germain. Oui, parce que les fidèles sont devenus un peu sceptiques, ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de miracles et ils commencent à se poser la question, mais est-ce que les reliques sont bien là ? Alors les chanoines frappent un grand coup, ils ouvrent le tombeau derrière le maître-autel et bonheur, on constate que tout est en ordre, le squelette est là exactement comme on l'écrit en 1477, comme lorsqu'il a été enterré, ce qui nous montre au passage qu'à cette époque-là, on n'avait plus du tout conscience que l'église initiale se trouvait tout à fait ailleurs. Et on referme donc le tombeau. Malheureusement, quelques années plus tard, en 1499, arrive la guerre de Souabe. Et les Autrichiens, qui sont au bisbille avec les Suisses, tombent à bras raccourcis sur Moutier, qui est combourgeoise avec Berne. Et du coup, ils vont faire subir les derniers outrages à la collégiale, ils vont y mettre le feu, ce qui n'est pas beau du tout. Mais par bonheur, le tombeau de Germain et de Randoald, les tombeaux vont être épargnés d'après les témoignages qu'on en a. Seulement, il faut refaire complètement l'église et on décide en 1505 de refaire aussi les tombeaux qui avaient sans doute été abîmés et on les réhabilite. Pas pour longtemps, puisqu'en 1530, la réforme menaçant, des chanoines de nuit, clandestinement, ouvrent les tombeaux, les deux tombeaux, mettent nos deux squelettes dans un coffre muni de trois clés, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude, n'est-ce pas, et transportent le tout à Soleure. pour les mettre en sécurité. Et parce que la semaine d'avant, ben, les reliques de Saint-Imier avaient été brûlées à Saint-Imier. Et ils craignent qu'il ne se passe la même chose à Moutier. Ils avaient bien raison, puisque la réforme va s'établir peu après. De 1530 à 1534, nos deux squelettes restent à Soleure. Mais en 1534, les chanoines obtiennent l'autorisation pour se réinstaller dans le diocèse à Delémont. Et ils vont rester là jusqu'à la Révolution. Alors on a la quatrième période qui s'ouvre de 1534 à 1706. Et il faut noter qu'à partir de 1530, nos reliques ne sont plus enterrées. Ce sont, j'allais dire, des saints volants. Ce n'est pas tout à fait ça, mais enfin, ils ne sont plus attachés à un lieu de sépulture sous terre. Ils sont dans des châsses qu'on va remplacer peu à peu, mais des châsses mobiles, quoi. Jusqu'en 1706, il s'agit de coffres de bois ornés d'argent, de pyrite, de tout ce que vous voulez, avec des lucarnes de verre qui permettent de voir les saints quand on les expose lors de leur fête. Donc de 1534 à 1706, ils sont dans ces châsses mobiles, mais en 1706, on entre dans une autre période parce qu'on trouve que ces deux squelettes, elles sont quand même pas bien mises en scène, pas très mises en valeur, voilà. Et du coup, on les envoie à Soleure chez les visitantines, des sœurs visitantines qui vont les mettre en forme plus ou moins comme ils sont maintenant, c'est-à-dire les scénographier comme ça, les décorer, les mettre en valeur dans des châsses intégralement de verre et avec des tissus, des bijoux, tout ce que vous voulez. Et on va inaugurer, les reliques reviennent donc en 1706 à Delémont, à Saint-Marcel, où elles vont ensuite être exposées en permanence, un peu comme elles le sont maintenant. Je passe sur le fait qu'en 1755-1767, l'église Saint-Marcel est reconstruite et les deux châsses sont transférées dans le couvent des Ursulines de Delémont. Tout se passerait bien s'il n'y arrivait pas la Révolution. Et là, c'est de nouveau la panique, n'est-ce pas? Nos chanoines doivent prendre la fuite et ils emmènent à Courtétel leur relique du 13 février, dans la nuit du 13 février 1793, sur un char couvert de paille pour pas trop les secouer. Pourquoi Courtétel? C'est dans la vallée de Delémont, mais le village est considéré comme suisse, puisqu'il est dans la prévôté de Moutier-Grandval, prévôté de Moutier-Grandval, elle-même combourgeoise de Berne. Donc, elle reste là pendant quelques temps, mais pas très longtemps, puisque les Français vont envahir le sud de l'évêché, donc y compris la prévôté de Moutier, et puis après, la Suisse. Alors, d'abord, on est inquiet, enfin à Moutier, on se dit quand les Français manifestent l'intention d'envahir le sud de l'évêché, on se dit qu'il faut vite sauver nos reliques et on les envoie de nouveau à Soleure le 19 décembre 1797. Mais bon, ensuite la Suisse elle-même est envahie, donc c'est un refuge de courte durée. Et finalement, le 14 février 1805, le chapitre de Moutier ayant disparu, ayant été dissous, on arrive à un accord selon lequel les reliques peuvent réintégrer l'église Saint-Marcel de Delémont, ce qui est le cas donc le 14 février 1805. Ce qui fait que de 1805 à aujourd'hui, nos reliques n'ont en principe plus bougé, sauf une petite exception. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les a mises en sécurité à Saint-Maurice-d'Agone, où elles sont restées de 1940 à 1949. Mais enfin, pour l'instant, et jusqu'à plus ample informé, nos reliques ne vont plus bouger, elles vont rester à Saint-Martel, là où elles sont conditionnées, et on leur souhaite un avenir plus calme que leur passé.
Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, de reliques comme ça qui sont déplacées au cours du temps, au gré des événements historiques?
Oui, oui, alors il en existe. Le transfert de squelettes complets, c'est quand même un peu plus rare. Mais ça arrive aussi. Autant de mouvements, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais j'imagine bien qu'on trouverait, parce qu'il y en a des milliers, n'est-ce pas, des saints. Donc voilà. Mais on notera pour l'intérêt du public que les reliques peuvent aussi se faire voler. C'est-à-dire que, par exemple, à Venise, on a volé les reliques de Saint-Marc. Et en fait, ce que je dis est faux. parce que si la relique n'accepte pas d'être volée, c'est-à-dire si le saint n'accepte pas que sa relique soit volée, alors il le refuse. C'est-à-dire que soit il envoie un coup de tonnerre sur le voleur qui est foudroyé, soit impossible, quelle que soit la force qu'on y mette, de déplacer la chasse. En revanche, il arrive que le saint soit d'accord. Et par conséquent, on peut déplacer les reliques comme l'ont fait les Vénitiens. Il s'agit donc de pieux vols qui n'en sont pas vraiment.